la présence de Dieu dans la louange. Je suis parti de ce verset d'un psaume, le psaume 22, vous le connaissez par cœur, psaume 22, verset 4, qui dit « Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. La présence de Dieu, donc, au sein de la louange. Dans la parole de Dieu, nous voyons que le Seigneur prend plaisir à la louange de son peuple. Il aime quand son peuple l'adore. Non pas qu'il en ait vraiment besoin, parce que Dieu n'a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. Mais ça lui fait plaisir quand il voit ses enfants s'assembler en son nom ou à la maison, quand vous louez le Seigneur. Bien, il aime cela. La Bible dit qu'il est saint, sans péché. Nos yeux sont trop impurs pour le voir et nous mourrions instantanément. Si nous devions voir sa gloire telle qu'il est vraiment, nous ne pourrions pas le voir. Mais nous pouvons ressentir sa présence et spirituellement, nous pouvons avoir un aperçu de ce qu'il est dans notre cœur. Il est roi aussi puisque la Bible dit qu'il siège et ça fait référence au trône de Dieu. Alors on peut se représenter un immense trône où Dieu est assis dessus. Et puis voilà que ce trône descend au milieu des louanges de son peuple. Et Dieu vient siéger avec ce grand trône glorieux, le trône de la gloire de Dieu où il est assis. Bien, je remarque dans ce verset qu'il n'est pas dit que Dieu... C'est vrai qu'il pourrait se tenir à distance de son peuple et de dire « Vous là-bas, vous m'adorez de loin parce que moi je suis trop saint, trop pur. » Mais la Bible dit que spirituellement, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Pas à côté, pas à 50 mètres, mais au milieu des louanges de son peuple. C'est encore une grâce que Dieu nous fait de venir au milieu de nous. Amen. Alors, la louange va donc favoriser une intimité, une relation de cœur à cœur avec Dieu. Regardez l'exemple de David. Pourquoi est-ce que David avait une relation si particulière avec Dieu? La Bible dit que Dieu a cherché un homme selon son cœur et qu'il a trouvé, il a cherché parmi les êtres humains, il en a trouvé un. C'était David. Et pourquoi il y a eu ce cœur à cœur entre David et Dieu? Non pas que Dieu fait du favoritisme, mais on peut dire que chez David, il avait vraiment un cœur pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette intimité. Et puis David a été le plus prolifique dans tout ce qui concerne la louange, l'adoration, en écrivant des psaumes, en étant lui-même musicien, en chantant des louanges. Donc il s'est passé quelque chose. Mais je crois que ce que Dieu a beaucoup aimé chez David, c'est cet état d'esprit d'adorateur, de louange, de quelqu'un qui aime Dieu, qui dans son cœur met la première place au Seigneur. Et on a parlé déjà de ce qu'étaient les vrais adorateurs, et David en était un. Donc on va voir un premier point dans 2 Chroniques chapitre 5 verset 11, c'est l'onction dans la louange. Premier point, donc 2 Chroniques chapitre 5 verset 11, l'onction dans la louange. La parole de Dieu dit: au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés pour observer l'ordre des classes, et tous les lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jedutun, et leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luths, des harpes, et avançaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsqu'ils sonnaient des trompettes, tous ceux qui chantaient s'unissaient d'un même cœur pour célébrer et pour louer l'Éternel. Ils firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Voilà ce qui se passe dans la louange. La gloire de l'Éternel remplit la maison où il y a ce temps d'adoration. On situe le contexte de ce passage, c'est donc suite à la construction du temple de Jérusalem. On sait que David a eu à cœur de le faire, mais Dieu a dit que ça serait Salomon. Donc c'est Salomon qui l'a fait construire. Et on arrive ici, ce jour-là, chapitre 5, c'est le jour de l'inauguration après toutes ces années de travail. Beaucoup de choses ont été accomplies. Alors, ce jour-là, les Lévites, qui étaient la tribu particulière référencée au service du temple, étaient chargés de transporter l'arche de l'Alliance du lieu où elle était jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la tente d'assignation, jusque dans le lieu très saint qui venait d'être terminé, le temple maintenant allait pouvoir accueillir l'arche de l'Alliance. C'est un grand moment, donc c'est ce que nous avons lu, les chantres étaient là, un moment solennel, un moment émouvant. Qu'est-ce que c'est que les chantres dont il est question au verset voilà, il y avait les Lévites, Asaph, Eman, Jedutun, ils étaient revêtus de vêtements sacrés. Il y avait donc ces chantres qui exprimaient leur louange. Alors les chantres, ce sont des chanteurs que David avait désignés. La Bible dit que David lui-même, c'était un chantre agréable à l'Éternel, un chantre de Dieu, et lui-même avait une grande vision pour la louange et l'adoration, et il a voulu faire les choses en grand. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y avait 4000 personnes qui servaient dans le domaine de la louange et l'adoration. David a fait les choses en grand pour Dieu. Il a nommé 3 responsables, vous avez leur nom ici, Asaph, Eman, Jedutun, qui étaient des chefs de chantre, des responsables de la musique et du chant dans les cultes. Ces 3 hommes donc dirigeaient les chœurs, ils dirigeaient les musiciens, et ils étaient habilités pour donner la conduite de la louange. Parmi ces 4000 personnes, il y en avait 288 qui étaient sélectionnés, qui étaient les meilleurs et qui étaient chargés d'entraîner les autres. Donc il y avait la recherche de la progression, de faire de mieux en mieux pour le Seigneur. Ça nous parle d'abord d'organisation, chef de chantre, donc il y avait des chœurs, il y avait des parties musicales, il y avait des chants, etc., il y avait des réponses. Ça nous parle d'organisation, chacun ne faisait pas comme il voulait, mais c'était un groupe, et il y avait nécessité donc de suivre les directives d'un responsable. C'est pour ça qu'ils avaient été nommés. Il y avait des répétitions, un travail régulier au niveau vocal, au niveau musical, pour se perfectionner. Comme j'ai dit, ils voulaient faire toujours mieux pour le Seigneur, de plus en plus, de mieux en mieux pour la gloire du Seigneur. Donc ça coûtait du temps, peut-être du temps, de l'argent, un investissement, mais c'était pour la gloire de Dieu. Les chantres, il est dit, vous avez remarqué qu'ils étaient habillés d'une manière particulière. Il est question de vêtements de byssus. Ce vêtement de byssus, c'est un fin lin égyptien de très haute qualité. Et on voit que jusque dans les détails, on remarque qu'il y avait le soin de la perfection pour qu'ils soient tous habillés d'une manière très jolie. Et puis, ils étaient tous habillés de la même manière. Et puis, ça, c'était dans le détail pour faire quelque chose de beau pour le Seigneur. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, on le fait de tout notre cœur, mais on veut le faire le mieux possible. Imaginez un ouvrier, imaginez un patron qui a un ouvrier qui bâcle le travail sur les chantiers. Il va avoir des problèmes, parce que ça va aller vite, mais c'est bâclé. Alors peut-être il faut détruire, il faut recommencer. Cet ouvrier, à un moment donné, le patron va lui dire « Attention, si tu continues comme ça, tu ne pourras plus travailler dans mon chantier. » Dans l'œuvre de Dieu, c'est pareil. On ne peut pas se permettre de faire les choses à moitié, de bâcler les choses parce que c'est pour Dieu. Non, ce qu'on fait pour Dieu, il est au-dessus quand même des rois et des seigneurs de ce monde. Il est le Tout-Puissant, donc pour lui, on ne peut pas imaginer faire les choses à moitié, on doit les faire à 100% et du mieux possible. Donc c'est ce que faisait David, vraiment il a fait les choses en grand. 4000 personnes, des responsables, des groupes de chant, des musiciens, tout cela répétait ensemble. On voit aussi l'importance de la musique, vous voyez, il y a quelques instruments qui sont cités, les cymbales, les luttes, les harpes, les trompettes. Dans les cultes qui étaient rendus à la gloire de Dieu, il y avait une grande place laissée à la musique. Ce n'était pas juste un accessoire pour accompagner seulement, mais la musique participait aussi parce que les musiciens adoraient au travers de la musique. Même les prophètes, beaucoup de prophètes étaient musiciens, vous retrouverez ça dans, par exemple, 1 Samuel chapitre 10 verset 5. Ils étaient musiciens, ils s'accompagnaient donc de leurs instruments pour prophétiser. À un moment donné, vous avez le prophète Élisée qui, avant de donner une prophétie de la part de Dieu, fait venir un musicien qui va, sous l'inspiration de l'Esprit, jouer. Et lui-même, le prophète va donner une prophétie de Dieu alors qu'il y a l'onction de Dieu qui vient pendant ce temps musical. Voyez, donc on voit que la musique accompagnait non seulement le culte, mais aussi les divers moments, à chaque fois qu'on rendait gloire à Dieu. On a cité Asaph, Eman, Jedutun. Il est dit qu'ils prophétisaient aussi, non seulement ils étaient chefs de chantre, mais ils avaient le don de prophétie, et ils prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Vous trouvez ça dans 1 Chronique 25.1. Donc, Il y avait la prophétie, il y avait la musique, et vous voyez que la musique n'était pas considérée comme mineure, mais elle était vraiment présente dans les temps de louange. Puis on a l'exemple de David, qui était ce chantre agréable à l'Éternel et qui jouait de la musique. Quand il a fallu aider ce roi qui était sous l'emprise d'un mauvais esprit, on a cherché un musicien, c'est David qui a été sélectionné. Et lorsque David, la Bible dit, lorsque David jouait de la musique sous l'onction du Saint-Esprit, eh bien, le roi était apaisé. Le roi était apaisé de cet mauvais esprit qui était sur lui. Et ainsi, la musique était utilisée de divers moyens. Elle avait un aspect spirituel. Alors, dans la parole de Dieu, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que la musique n'est jamais dissociée du musicien. Et que Dieu accorde une réelle importance à la vie du musicien. Alors, il ne s'agit pas, si vous voulez, de jouer un morceau de piano ou un morceau de guitare qui soit agréable à l'oreille, simplement, parce qu'il y en a qui le font très bien dans ce monde, mais Dieu tient compte, lui, du cœur du musicien. Est-ce que ce musicien, c'est un adorateur? À ce moment-là, il pourra adorer au travers de son instrument de musique. Mais si ce n'est pas un adorateur, il va faire une production, il va faire une composition, une prestation, si vous voulez, une mélodie. Mais Dieu ne va pas forcément agréer cette mélodie, quand bien même ça serait la mélodie d'un cantique, si ça ne vient pas d'un cœur d'adorateur. Donc on ne peut pas dissocier la musique de la personne qui va l'interpréter pour Dieu. Est-ce que cette personne aussi vit en communion avec le Seigneur? Concernant les instruments de musique, pour vous montrer la richesse qu'il y a dans la parole de Dieu, qui n'est pas limitée, bien, en consultant un peu les psaumes, on se rend compte qu'il y a trois sortes d'instruments. Les instruments à cordes, les instruments à vent et les instruments à percussion. Tous les instruments étaient représentés. Il y avait pour les cordes les harpes, psaltérion et luth. Pour le vent, les chalumeaux, c'est-à-dire des flûtes, la cornemuse, des cordes, des trompettes. Vous avez remarqué combien de sacrificateurs y sonnaient de la trompette là? 120 sacrificateurs qui sonnaient chacun. Chacun sonnait sa trompette. Vous avez déjà entendu une trompette, le bruit d'une seule trompette? Ah oui, on en a eu, on en avait avec Ludo, hein. Une seule trompette, ça dégage déjà un certain volume. Imaginez 120 comme Ludo ici. Je ne sais pas si on tiendrait. Le bruit que ça fait, 120 trompettes, c'est énorme. C'était volumineux, c'était pour honorer Dieu. Alors c'est vrai que c'était à l'air libre, peut-être le son se diffusait davantage. Il y avait des instruments, donc avant, il y avait des percussions, tambourins, cymbales. La Bible précise les cymbales sonores, des cymbales retentissantes. Donc il y avait de la ferveur, il y avait de la joie, il y avait tous ces instruments-là représentés, vous le verrez facilement dans les psaumes. Je remarque dans ce texte, au verset 13, c'est l'unité de cœur qu'il y a entre les adorateurs. Vous voyez, verset 13, « Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, ils firent retentir leurs trompettes. » Ils se sont unis d'un même accord, musiciens, chanteurs, tout ça pour adorer le Seigneur. C'est très important de s'accorder quand on veut jouer, ne serait-ce que pour jouer comme on l'a fait ce matin. Les musiciens viennent avant, la première chose qu'ils font quand ils arrivent, ils commencent à s'accorder sur tous les instruments à cordes comme guitare ou par exemple une trompette. Tout ça, ça nécessite un temps pour s'accorder. Et si on ne prend pas ce temps, qu'est-ce qui se passe? Bien, on va être presque juste, mais on va être faux. On va être faux parce que la note, même si la note est, on va dire, un quart de ton en dessous, elle est fausse. Voyez. Donc s'accorder, ça permet de trouver la note où tout le monde va être sur la même exactement, ni légèrement au-dessus, ni légèrement en dessous. Ça nécessite un petit temps. Et dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on est encouragé aussi à s'accorder les uns les autres, à prendre le temps de s'accorder. Pourquoi est-ce qu'on vient dans ce lieu? C'est pour adorer. Paul dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. » Alors on s'accorde. Un même amour, une même âme, une même pensée. Est-ce que, mon frère, ma sœur, tu es d'accord? Est-ce qu'on est d'accord les uns avec les autres? Ou est-ce que, au milieu de nous, il y a des dissensions, des disputes, des rivalités? Parce que tout ça, ça va être un frein à la louange, à l'adoration. On a besoin de se mettre d'accord, on a besoin de partager ensemble et d'être d'accord sur le but de notre rassemblement. Notre rassemblement, quand on vient dans ce lieu, c'est pour adorer, louer le Seigneur. Quand on parle du culte, bien sûr, on parle du rassemblement du dimanche matin, Eh bien, c'est dans cet esprit, c'est dans cet état d'esprit qu'on vient. On ne vient pas avec des revendications, des critiques, des jugements, mais on vient dans un état d'esprit tourné déjà vers la louange. Et la... C'est ça s'accorder. Et c'est pour ça que j'ai parlé déjà dans cette série de messages sur la nécessité de se préparer en venant au culte, parce qu'à la maison, on prépare notre cœur. Et quand on vient là, on est tous unis, on est tous accordés pour louer le Seigneur, parce qu'il y a eu cette préparation spirituelle. Alors c'est vrai qu'on peut être différent, et si on regarde l'unité, c'est un vrai miracle. Quand on regarde les uns et les autres, on vient tous d'horizons différents. Si on n'avait pas rencontré le Seigneur, peut-être on ne se connaîtrait jamais. Mais parce que on a été sauvé par Jésus, on a la même foi et on croit dans le même Seigneur. Et c'est ce qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. On est unis par le Saint-Esprit. Il y en a qui travaillent dans différents secteurs, qui ne se seraient jamais croisés. Mais voilà, unis par le Saint-Esprit, on se retrouve. Et il y a toutes sortes de catégories de personnes comme cela qui sont chrétiennes. Et c'est ça qui est important. Vous savez, quelquefois j'entends dire, et ça nous attriste toujours, des gens qui disent « Oui, mais dans l'amour, dans l'Église, le problème, c'est qu'il y a un manque d'amour. » Il y a un manque d'amour. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que le premier problème, c'est un manque de communion avec Jésus. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si nous sommes tous en communion avec Jésus, nous allons tous nous aimer les uns les autres. Et il n'y aura pas de problème de manque d'amour. Vous voyez que le manque d'amour, c'est une conséquence d'un manque de communion avec Jésus. Pour moi, c'est ça qui est le prioritaire. C'est la communion que nous devons avoir avec Jésus. Si j'ai une bonne communion avec Jésus, j'aurai une bonne communion avec les autres, il n'y aura pas de problème. Si je n'ai pas une bonne communion avec Jésus, ça va être difficile. Et je vais avoir des problèmes avec l'un, avec l'autre, et puis je vais arrêter de prier, je vais arrêter de louer, je vais quitter l'église, etc. Ce n'est pas qu'il y a un manque d'amour, c'est qu'il y a un manque de communion avec Jésus. Et si on retrouve cette communion avec Jésus, vous allez voir que l'amour, il est là. L'amour pour les frères, l'amour pour les sœurs. Plus on se rapproche du Seigneur, plus on se rejoint les uns les autres. Et puis vous remarquez qu'à la fin, il y a l'onction qui vient par la nuée. Dans un dernier temps, il est dit que la nuée remplit le temple et la gloire de l'Éternel se manifestait dans la maison de Dieu. Donc on voit ici que l'onction vient. Quand est-ce que l'onction de Dieu s'est manifestée? Pendant le temps de louange et d'adoration. On remarque une chose, c'est que la louange, dans l'unité, parce que c'est quand même souligné, ils se sont accordés et ils ont loué ensemble le Seigneur. La louange dans l'unité précède l'onction, et là où Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, des louanges d'Israël. Donc il y a eu ce temps avant de préparation. Dieu a pris plaisir à ce temps de louange et il a manifesté puissamment sa gloire. Vous savez, c'était tellement manifeste que les sacrificateurs, ils n'ont pas pu tenir dans la présence de Dieu, ils ont dû sortir de là. On peut ressentir la présence de Dieu. La première fois que j'ai ressenti la présence de Dieu dans un moment de louange, c'était dans une église où j'étais de visite. Et je vais vous le confesser, ce n'était pas dans une assemblée de Dieu. J'étais en visite dans une assemblée charismatique, à Paris. Alors nous, dans les assemblées de Dieu, on avait appris à chanter. Chanter, ça, on savait chanter. Mais louer par le chant, je ne savais pas ce que c'était. Et dans cette assemblée, je vois des gens qui louent le Seigneur comme je n'avais jamais vu. Ils étaient debout dans la présence de Dieu, les mains levées vers le ciel, mais tous adoraient le Seigneur. Et ce jour-là, j'ai compris, il y a une différence entre chanter pour Dieu et louer Dieu par le chant. Il y a une différence. Mais on ne me l'avait jamais appris. Je l'ai vu par une expérience personnelle. Et peut-être quelqu'un ce matin aussi a besoin de saisir cette différence. Parce qu'on peut, on aime chanter, on peut chanter le Seigneur. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas simplement des chants, mais c'est notre adoration. Adorons le Seigneur au travers de ses chants et de ses cantiques. Et je vous assure que ce jour-là, j'ai été saisi, j'ai ressenti vraiment dans cette église la présence de Dieu, l'onction. Elle était palpable. C'était manifeste que Dieu était à l'œuvre dans ce lieu. C'était même physiquement, on le ressentait. Tellement Dieu prenait plaisir aux louanges de son peuple, il était là en train de siéger. Et la nuée de Dieu était là dans la salle, et puis il y avait cette onction. Est-ce que vous avez soif aussi de vivre ces temps comme ça? Amen. Alors ça dépend de notre soif de Dieu, de notre désir d'adoration. Ne venons pas au culte simplement pour chanter, mais venons pour le louer, pour l'adorer, lui exprimer notre amour. Et les chants, c'est un support qui vont permettre d'exprimer ce qu'il y a dans notre cœur. L'onction n'est jamais déconnectée de la foi. J'ai remarqué ceci, c'est qu'on peut être dans le même lieu. L'un va ressentir l'onction du Seigneur parce qu'il va être en communion avec Dieu, il a la foi. Il ressent la présence de Dieu, il voit la gloire de Dieu. Et l'autre, il est dans le même lieu, mais il ne ressent rien et il ne voit rien. On ne peut pas forcer l'onction. Quelqu'un qui ne veut pas croire, qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas aller plus loin, il ne ressentira rien, il ne verra rien. Est-ce que dans notre cœur, on a envie de ressentir ces choses, d'aller plus loin avec le Seigneur? Ça dépend de cela. Et on le voit très bien avec l'exemple d'Étienne. Étienne, à un moment donné, il est dit que les gens étaient là pour le lapider. Lui, il a vu le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de Dieu. Il l'a vu. Mais les gens qui étaient là pour le lapider, ils n'ont rien vu du tout. Ils voyaient le ciel avec les nuages. C'est tout. Tant qu'on n'a pas la foi, on n'a pas la vision. Dans le christianisme, il nous faut croire pour voir. Et si moi, ce matin, je doute, si je ne veux pas avancer avec Dieu, eh ben, j'avancerai pas. Je ne croirai pas et je serai toujours où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est quelques pensées sur ce sujet. J'avais un deuxième texte, toujours dans le livre des Chroniques, 2e Chronique, chapitre 20, verset 20, pour montrer la victoire maintenant dans la louange. On a vu l'onction, Dieu donc se manifeste par la nuée, par sa présence, son onction. Ensuite, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche, le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit : Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous dans ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'Éternel, célébrait l'Éternel et disait « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Oh, quel moment de victoire! Il y a eu un moment de louange avant cette grande victoire. La victoire dans la louange. Les Ammonites, les Moabites, c'était des peuples ennemis d'Israël, ils se sont associés pour combattre le peuple de Dieu. Le roi Josaphat sentait que ça allait être difficile, alors il a convoqué au temple tout le peuple de Juda pour chercher la face de Dieu. Ils ont commencé à louer, à prier, à être dans le jeûne. Alors qu'ils sont là, debout, dans l'attente de ce qui va se passer, peut-être en train de louer le Seigneur, tout d'un coup, il y a un prophète qui vient. Il s'appelle Jacques Aziel, et il donne, c'est au verset 15, il donne une promesse de la part de Dieu. Il dit, au verset 15, il dit « Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Ah, ça a fait du bien dans le cœur du peuple qui voyait la difficulté immense. Eh bien, frères et sœurs, Dieu nous dit la même chose ce matin. Nous n'avons rien à craindre. Les ennemis sont peut-être nombreux, ils sont peut-être plus puissants que nous, c'était le cas à l'époque. Nos yeux sont souvent une occasion de chute. Alors nous voyons les choses, comme là, le peuple ennemi, il le voyait immense, comme une multitude nombreuse qui allait les anéantir. Vous voyez qu'on est responsable de nos craintes. Et si dans ma vie, il y a des peurs, des craintes, parce que j'ai des impressions, j'ai l'impression que je vais avoir tel ou tel problème, telle ou telle difficulté, on est responsable, parce qu'on laisse entrer dans notre cœur du doute, des craintes, des mauvaises pensées. Et qui est-ce qu'on va croire? Est-ce qu'on veut croire la parole de Dieu qui nous dit « Vous n'avez rien à craindre, ces ennemis que vous voyez, je vais m'en occuper » ou est-ce que vous allez croire vos sentiments? Quelqu'un dit « Le sentiment ». Le sentiment. Alors ne vous fiez pas à ces sentiments qui vous donnent une impression que vous allez perdre, alors que Dieu nous dit « Ne craignez rien ». C'est une certitude, hein, quand il est dit là dans la prophétie « Dieu combattra pour vous ». Ce n'est pas peut-être que si ça se passe bien, Dieu combattra, sinon on verra. Non, non, c'est une certitude. Il nous faut avoir la foi pour le croire. Le combat que nous livrons est immense. Il y en a qui combattent parce qu'ils ont un conjoint converti. Il y en a qui combattent dans la prière pour des situations, dans leur travail, dans leur famille, des combats immenses. Et peut-être on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. C'est trop grand pour nous. On n'a pas la force. Et quelqu'un se sent peut-être seul et se dit, mais comment je vais faire face à cela? Mais le Seigneur nous dit, tu n'es pas seul dans ton combat, car je suis avec toi, et le Seigneur, s'il est avec nous, c'est impossible de perdre. Alléluia. On est condamné à triompher si le Seigneur est avec nous. Hein? Comme c'est le cas ici, ils étaient dans la louange, dans l'adoration. La parole de Dieu vient, ne craignez point. Ensuite, au verset 17, il est dit, voilà comment vous allez faire. Dieu donne une directive. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Oh, c'était pas trop difficile ce que Dieu a demandé. Ils disent, vous allez juste vous présenter devant vos ennemis, en louant, en adorant. Voilà. C'était, est-ce qu'on peut le faire, ça? Ça, on peut le faire. Tout le monde peut le faire, tous les chrétiens du moins. Mais est-ce que nous avons la foi pour le faire? Ça, c'est différent. Est-ce que nous allons la foi? Bon, on n'est pas dans leur cas de figure parce que eux, c'était des ennemis concrets, vous voyez, avec des armes concrètes, tranchantes. Est-ce que nous avons la foi pour aller au-devant de l'ennemi, de l'armée ennemie, en chantant des cantiques, alors qu'eux, ils veulent nous tuer? Ça, c'est différent. Hein. Tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'a pas la foi pour le faire. Et là, ils ont fallu qu'ils... Peut-être il y en a qui ont discuté, mais Seigneur, est-ce que tu te rends compte de ce que tu demandes? Il y a une armée qui va déjà plus nombreuse que nous, en plus bien armée, et nous, tu demandes d'aller chanter des cantiques, des louanges. Est-ce que c'est bien raisonnable? Et on se rend compte que les directives de Dieu sont souvent à l'opposé de nos raisonnements, parce qu'humainement, effectivement, c'était pas la meilleure tactique. Je remarque au verset 21 que c'est les chantres qui vont être placés devant l'armée. Verset 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma les chantres. Et ils étaient là devant l'armée pour louer l'Éternel. Josaphat, d'abord, se met d'accord avec tout le monde. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure pour l'unité? Se mettre d'accord, s'accorder. On retrouve le même principe. Ils se sont accordés. Voilà, avant d'aller au combat, on va s'unir. Parce qu'on ne peut pas espérer remporter de victoire si on ne combat pas ensemble, dans la même direction. Il est arrivé cette anecdote lors de la bataille de Trafalgar, à l'amiral Nelson qui a fait appeler ses officiers dont un était absent. Alors il a fait savoir pourquoi cet officier est absent. Cet officier s'était disputé avec un autre officier, ils n'étaient pas d'accord sur la manière d'agir. Et l'amiral a fait convoquer les deux officiers, il leur a mis la main dans la main et il a montré au loin les vaisseaux ennemis qui approchaient et il leur a dit, voyez tous les deux, votre ennemi il est là-bas, il n'est pas sur ce navire ici, votre ennemi il est à l'extérieur. Et quelquefois on n'a pas bien compris, nous chrétiens, où est notre ennemi? Notre ennemi, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur qui est dans l'église. Notre ennemi commun, c'est l'adversaire, le diable. Et c'est celui-là que nous devons combattre. Ce n'est pas entre nous, ce n'est pas se déchirer qui va faire avancer les choses, mais c'est de combattre ensemble contre l'adversaire. Donc ils se sont mis d'accord, et c'est ainsi que Josaphat a appliqué ce qu'on a lu au verset 17, donc la directive de Dieu. Il a dit, bon ben les chantres, c'est vous qui allez devant, les hommes, le reste de l'armée, vous serez derrière, et puis vous allez aller vous présenter devant l'ennemi. Mais ce n'était pas facile à mettre en pratique, hein. Il fallait avoir le culot de faire une chose pareille. Il fallait avoir l'audace de la foi. Parce que si on veut perdre une bataille, il n'y a rien de mieux à faire que de mettre les chanteurs inoffensifs devant, et puis les autres avec leur arc et tout ça, ils vont les supprimer. Donc, ils ont préféré écouter la volonté de Dieu, quitte à prendre un risque immense, plutôt que d'y aller avec leurs armes humaines, sachant qu'ils n'étaient plus dans la volonté de Dieu. Vous vous rendez compte que la foi, elle génère toujours un risque. On ne peut pas dire, tiens, je vais mettre ma foi, puis tout est assuré là. Là, je suis sûr qu'il y a un risque. Parce que si ça s'était mal passé, ben, le responsable, c'était le roi. Et il avait dit de faire ça. C'était le roi. Et s'il y avait eu des morts, si l'ennemi avait tiré sur les chantres là, ben, le roi, il en aurait eu gros à porter après. Donc il a fallu qu'il prenne le risque aussi. Et pour son peuple. Mais comme il est parti, et vous voyez que le risque, c'est toujours sur une parole de Dieu, ce n'est pas des risques en l'air, parce que tout le monde peut prendre des risques et faire n'importe quoi, je veux dire. Mais là, ils sont partis d'abord sur une promesse, ensuite sur une directive de Dieu précise, et c'est sur cette base-là qu'ils ont pris le risque de la foi, de croire ce que Dieu dit. On ne peut pas prendre un risque, par exemple, à sauter du troisième étage en disant « Allez Dieu, garde-moi », ça c'est prendre un risque inconsidéré, et c'est faire n'importe quoi. Donc la foi, elle, qui comporte un risque s'appuie toujours sur une parole, une révélation. Et la seule arme des chantres à ce moment-là, c'était la louange et l'adoration. Vous imaginez ces chantres-là, ils n'étaient pas habitués au combat, ils se retrouvent en tête de l'armée. Je pense qu'ils ont chanté de tout leur cœur le Seigneur, parce que s'ils tremblaient, allez, alléluia, à toi la gloire, à toi la gloire. De tout leur cœur, ils ont chanté, parce que ça ne devait pas être facile. Et puis, la victoire au verset 22, au moment où l'on commençait les chants, quand est-ce qu'a eu lieu la victoire? Quand est-ce que Dieu a infligé la pire défaite à l'ennemi du peuple d'Israël? Pendant le temps de louange. Au moment où on commençait les chants. Pendant le temps de louange, Dieu a infligé la défaite. Ni avant, ni après, mais pendant le temps de louange. Donc on voit qu'il y a des victoires qui peuvent être remportées dans la louange, dans l'adoration. C'est vrai que le Seigneur aurait pu les détruire avant, il aurait pu les détruire, il fait ce qu'il veut, mais il a voulu agir à ce moment-là. La Bible parle d'une embuscade. On s'est posé la question, les commentateurs, qu'est-ce que c'est que cette embuscade? En tout cas, ce n'était pas le peuple d'Israël. Est-ce que c'était des rôdeurs, des anges, des démons, plusieurs hypothèses, ou même les alliés qui se seraient trompés d'ennemis et qui se seraient détruits entre eux? On ne sait pas qui est cette embuscade, mais en tout cas, Dieu avait placé là une embuscade qui s'est mise à combattre les ennemis du peuple de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est possible encore aujourd'hui de remporter des victoires dans la louange et dans l'adoration? Alléluia! Alors louons-le de tout notre cœur. Nous, nous louons le Seigneur, c'est ce que nous pouvons faire. Et puis, Dieu combat pour nous pendant la louange, pendant l'adoration. C'est pas très rationnel ce qu'on dit là. On va dire que sur le plan humain, même plan militaire, ça n'avait aucun sens de mettre des chantres là devant l'armée. Mais c'était spirituel. Alors, frères et sœurs, continuons à louer le Seigneur. Continuons à l'adorer de tout notre cœur et nous sommes assurés que le Seigneur combat pour nous et que nous serons vainqueurs. Amen. Un dernier texte, c'est dans Actes 16. Et au verset 25. Ici, c'est maintenant la délivrance dans la louange. On a vu qu'il y avait l'onction, on a vu qu'il y avait la victoire, et en plus, il y a la délivrance. Acte 16, 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Paul et Silas ont prié, particulièrement Paul a prié pour une femme qui était possédée d'un esprit de python un petit peu avant, et cette femme a été délivrée. Cet esprit de python lui permettait de deviner l'avenir. Mais les maîtres de cette femme, voyant qu'elle n'avait plus la possibilité de deviner l'avenir, ont fait convoquer Paul et Silas pour leur faire du mal. Ils ont commencé par déchirer leurs vêtements publiquement. Ils les ont battus de coups de bout de bois. Ils les ont jetés dans une prison. La Bible dit que c'était la prison intérieure, donc la plus retirée dans la prison, on pourrait dire le cachot où on met ceux qui sont en quarantaine, parce qu'ils ont fait des graves choses. Et puis, ils avaient les ceps aux pieds pour être sûr qu'ils ne pouvaient pas sortir, puis c'était bien serré, ils devaient en souffrir pas mal. Donc ils avaient les coups, ils avaient les ceps aux pieds. Et quel est leur état d'esprit dans cette affaire? C'est très injuste ce qu'ils sont en train de vivre. C'est pas normal. Ils ont juste annoncé la parole de Dieu, ils ont même prié pour la délivrance d'une femme qui a été libérée d'un mauvais esprit. Et puis, regardez ce qu'ils reçoivent en retour. Que des méchancetés. Dans quel état d'esprit sont Paul et Silas? Est-ce qu'ils sont en train de se plaindre et de se dire, eh ben, la prochaine fois, hein, je ferai attention avant de m'engager pour le service du Seigneur, parce que quand on voit tout ce qu'on prend comme coup, est-ce qu'ils sont en train de se plaindre? Est-ce qu'ils sont tristes? Il y a des moments où on n'a pas envie de louer le Seigneur parce qu'on est triste. Est-ce qu'ils sont tristes? Est-ce qu'ils ont vécu des déceptions? Ils ont vécu des déceptions, ils pourraient dire, ben, Seigneur, tu vois notre situation, on peut pas louer dans ces conditions, c'est pas possible. Est-ce qu'ils ont envie de dormir? C'est quand même le milieu de la nuit, 2-3 heures du matin. Ils pourraient avoir envie de dormir quand même après tout ce qu'ils ont vécu, se reposer. La nuit porte conseil, on verra bien demain matin ce qui se passe. Eh bien, ils étaient tellement remplis d'un état d'esprit de louange et d'adoration qu'ils n'arrivaient pas à trouver le sommeil. Et plutôt que de se plaindre ou d'être triste et tout ça, ils ont commencé à partager ensemble et ils se sont dit, ah ben tiens, si on commençait à chanter des cantiques. Et si on commençait à louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut louer Dieu quand ça va mal? Ou est-ce que c'est réservé quand tout va bien seulement? On peut louer Dieu même quand tout va mal. Seulement, on n'a pas toujours la foi et la force de le faire. Et là, on voit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et puis, vous voyez, la louange aussi, c'est en chantant que progressivement, ça vient, et puis on adore, et puis on loue. Donc, peut-être les premiers chants, c'était un peu timide, je ne sais pas, et puis petit à petit, voilà. Et puis après, au bout du troisième, du quatrième chant, toute la prison les entendait. C'est extraordinaire. La prison commençait à entendre les louanges du Seigneur, alors ils y mettaient tout leur cœur. Ils auraient pu se dire, avec ce qu'on vient de prendre, on ferait mieux de se taire et de rester discret. Ils auraient pu raisonner comme ça. Mais au contraire, avec tout ce qu'ils avaient reçu sur le coup, ils ont été brisés en mille morceaux, eh bien ils trouvaient la force de chanter assez fort pour que tout le monde les entende. Donc c'est vraiment que Dieu les avait remplis du Saint-Esprit et rien ne pouvait arrêter leur détermination. Leur cœur déborde en louange. Conséquence, au verset 26, la Bible dit que pendant le temps de louange, pendant, ni avant ni après comme on a dit tout à l'heure, mais au moment où ils chantaient les louanges de Dieu, il y a eu un tremblement de terre, les liens de tous les prisonniers sont tombés. Pendant la louange. Ça veut dire pour nous que pendant la louange, Dieu agit. Dieu agit. Dieu peut libérer de liens. Dieu peut libérer un esclave. Quelqu'un qui est esclave de toutes sortes de passions, de chaînes, eh bien, dans la louange, il peut trouver des libérations. Parce que Dieu veut libérer son peuple. La Bible dit dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » La réelle liberté, c'est la liberté des enfants de Dieu qui sont délivrés de leurs chaînes, les chaînes de Satan, et on ne voudrait pas vivre en enfant de Dieu en ayant encore des passions, des péchés à lesquels on n'arrive pas à se débarrasser. Donc, prions le Seigneur pour en être délivré. Et dans la louange, dans l'adoration, vous voyez que Dieu agit puissamment. C'était ça la pensée que je voulais partager avec vous. En conclusion, Dieu est présent dans la louange, dans l'adoration, lorsque son peuple s'assemble, on a dit, et qu'il s'accorde. Il faut qu'on soit d'accord pour louer le Seigneur. Avec un même sentiment, un même cœur, une même âme, eh bien Dieu se manifeste dans ces moments par son onction, par des moments de victoire, par des délivrances. On a vu tous ces exemples. Dieu nous demande toujours de faire quelque chose pour mettre notre foi en œuvre. À chaque fois, il attend de nous quelque chose. Là, il fallait chanter. Vous vous rappelez ce peuple? Bien sûr, Dieu aurait pu anéantir les ennemis sans que le peuple loue et fasse quoi que ce soit. Mais Dieu avait dit, voilà, vous allez louer le Seigneur. Ça, c'est mettre en œuvre notre foi. Eh bien, Dieu nous demande la même chose ce matin, de mettre en œuvre notre foi, c'est-à-dire de faire ce que nous pouvons faire. Eh bien, on peut louer le Seigneur, on peut le chanter, et la Bible nous dit, Dieu se chargera du reste. Que ce soit les ennemis, que ce soit les délivrances, Dieu manifeste son onction. Ça, c'est la part de Dieu. Ça, on ne peut pas le faire, nous. Mais notre part, c'est de louer, c'est d'adorer. On va prier quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle ces vérités, que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Et combien nous réalisons que c'est un privilège et une bénédiction que nous avons lorsque nous assemblons pour t'adorer, te célébrer, que tu viennes régner au milieu de ton peuple. Nous voulons avoir ces yeux de la foi pour te voir dans toute ta gloire, dans toute ta beauté. Seigneur, merci pour ton onction qui se manifeste dans la louange. Merci pour les délivrances que tu accordes, pour les chaînes de Satan qui tombent au nom de Jésus. Merci pour les victoires contre l'ennemi, contre la puissance des ténèbres, car tout est possible en ton nom, Seigneur. Tu vois les besoins de mes frères, mes sœurs, et quels qu'ils soient, dans le nom de Jésus, je te prie d'accorder des victoires et de nous apprendre à progresser dans la louange et l'adoration qui t'honore, qui te plaît, dans laquelle tu prends plaisir pour que tu viennes siéger et que tu te manifestes de toutes ces manières. Oh, dans le nom de Jésus, reçois toute la gloire ce matin. Amen.